Bonjour tout le monde. On va prier déjà pour remettre ce message. Oui Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, pour être à ton écoute, Seigneur, pour avoir les yeux plongés dans ta parole. Car Seigneur, oui, ce sont les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous ? C'est nous, vers toi que nous voulons aller. Nous voulons simplement écouter. Et nous voulons simplement obéir. Car Seigneur, c'est ce que tu nous demandes, c'est notre salut. Merci en tout cas, mon Dieu, parce que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir vivre cette vie nouvelle. Tu nous donnes le pouvoir aujourd'hui, par ton esprit, appliquer tes commandements. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous en remettre à cet esprit. Que l'esprit convainc. Que l'esprit, Seigneur, nous fasse agir. Que ce soit toi, Seigneur, qui sois le maître en toutes choses aujourd'hui encore. Merci encore aujourd'hui parce que tu permets à ton serviteur de parler. Soutiens ces paroles, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, en faire des bénédictions pour cette assemblée. Car, Seigneur, je sais que tu aimes cette assemblée, tu aimes chaque personne présente ici. Que ton amour, Seigneur, soit connu de tous. C'est au nom de Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Amen. Notre texte d'aujourd'hui se trouve en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 31 jusqu'à 13, 8. Mais avant de le lire, j'aimerais un peu vous introduire ce texte en quelque chose que j'ai vécu cet été. Vous savez, je suis allé à 3 mariages cet été. Et je vais parler de 2. Il y en a un qui était un mariage où c'était ce qu'on appelait une cérémonie laïque. Et puis il y en a un autre, c'était un mariage où c'était vraiment le Seigneur qui était au centre. D'un point de vue forme, tout était pareil. Vous aviez un pupitre, 2 personnes qui vont se marier, 2 rangées, tout a l'air pareil. On parlait d'union, d'amour, de joie, tout avait l'air pareil. La différence, c'est qu'il y en a un était avec Dieu au centre, et il y en a un où Dieu n'avait pas sa place. Et lorsque Dieu n'a pas sa place, le centre, ce sera qui donc ? Les hommes. Et les gens défilaient pour parler des mariés. Ah, qui sont géniaux, qui sont magnifiques. Avec des telles personnes, sûr et certain, le mariage, c'est garanti 100%, ça marchera. Et dans l'autre mariage, c'est avec 2 hommes, 2 femmes, c'est pas possible. Avec un homme et une femme, c'est possible, mais ce n'est pas garanti que ça marchera. Jusqu'à dans l'éternité, s'il manque le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous lie. S'il n'a pas sa place dans le foyer, le mariage ne peut passer. Le mariage risque de capoter. Et si Dieu n'est pas là pour être glorifié dans le mariage, eh bien c'est la force de l'homme qui va être mise en avant. Ils auront peut-être une belle vie de couple. Et ils suivront leur propre voie, leurs propres pensées, leurs propres sentiments. Mais les pensées de l'homme, les sentiments de l'homme sont des choses fluctuantes. Vous le savez. Je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, et ça finit par pas du tout. Mais avec Dieu, quand il aime, il aime. Et quand c'est l'amour de Dieu que nous partageons, on sait que quelque chose qui va durer jusqu'à quand ? Aussi longtemps que Dieu existe. Aussi longtemps que Dieu n'a pas changé d'avis. Et est-ce que Dieu est du genre à changer ? Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que quand on parle d'amour, d'union, de joie, quand on essaie d'enlever Dieu, ben on aura ce qu'on est capable de faire. Et ce qu'on est capable de faire, c'est aussi stable que nous. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour j'aime, le lendemain je déteste. Mais à un moment donné, dans cette cérémonie laïque, j'étais quand même un peu souriant. Si tout le monde commençait à louer les mariés, quelqu'un a dit « Bon, ben moi, je vais lire un poème. » Et quand il a commencé le poème, ça donnait ça. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit, et on lira la suite tout à l'heure. » Mais vous le connaissez, ce passage. Et je me suis dit sur le coup « Ah, super, il y a au moins la parole de Dieu, quelqu'un est en train de le lire. » de la lire. Et les gens étaient touchés. Ah, c'est beau, c'est un beau passage. Mais au final, j'ai vu que ce n'était qu'un poème à leurs oreilles. Le poème d'un auteur inconnu. Le poème d'un auteur inconnu. De belles paroles à entendre. Et le problème, c'est que c'est ce qui est devenu un peu l'amour aujourd'hui. De belles paroles à entendre. Et ça pourrait être pareil pour la parole de Dieu. De belles paroles à entendre. On peut la lire, l'entendre, mais est-ce que c'est ça vraiment l'amour? L'amour que Dieu demande? Est-ce qu'il nous dit, ah, ces paroles doivent te toucher, ou ces paroles doivent te transformer? Pour nous, qui savons que c'est la parole de Dieu, nous devons nous rappeler que ce n'est pas un joli poème. Que c'est la puissante parole par laquelle Dieu créa le monde. C'est la puissante parole qui nous a amené de la mort à la vie. C'est la puissante parole qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer les frères et sœurs. C'est le message de notre Dieu qui s'opère en Jésus-Christ seul. Un amour que nous connaissons si nous avons connu Christ, qui a été manifesté dans nos vies et que nous devons vivre dans ce monde afin que les hommes connaissent l'auteur. Si c'est pour les hommes un auteur inconnu, en regardant nos vies transformées, ils doivent savoir qui est l'auteur de cet amour. Ce ne sont pas des paroles touchantes, mais des paroles puissantes, capables de changer des vies, mais d'abord la nôtre. L'amour de Dieu, et c'est ma question ce matin, a-t-il déjà changé vos vies? Et est-ce que vous savez comment Dieu nous a montré son amour? Avant de prendre 1 Corinthiens 13, j'aimerais qu'on lise un passage en 1 Jean chapitre 4, du verset 9 au verset 13, qui nous parle de cet amour qui était inconnu des hommes, et il nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est différent. Avant, on vivait par qui? Par nous-mêmes. Notre amour, notre union, notre joie, c'est la seule chose que nous pouvions produire. Mais là, on peut vivre par lui, par son amour. On continue. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, incapacité de notre part, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est une prérogative. Si vous avez été aimé de Dieu, l'ordre c'est quoi? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On continue. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est un auteur inconnu, les gens ne l'ont pas vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et où est-ce que les gens voient la vie de Dieu? En nous. Une vie transformée, on continue. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. C'est ça l'Église. C'est ça notre vie transformée, l'Esprit qui nous permet de montrer au monde qui ne connaît pas Dieu quoi? L'amour de Dieu. Une vie transformée par Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Mais si notre vie est la même qu'auparavant et qu'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que les gens verront? Ce n'est pas un message touchant. C'est un message qui transforme nos vies et la vie des autres. Si nous ne laissons aucune place à Dieu dans nos vies, si nous ne choisissons pas de l'inviter dans nos moments, les meilleurs comme les pires, si nous ne l'aimons pas, si nous préférons nous tenir loin de lui pour qu'il ne voie pas nos péchés, si nous préférons nous opposer, si nous préférons le péché, eh bien vous savez une chose, lui nous aimera toujours. Et ça c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour des hommes c'est « je t'aime si tu m'aimes ». Dans la vie, il y a celui qui a reçu la parole de Dieu. Et il y a une différence notable. Il vit par Jésus-Christ maintenant. Il comprend que Christ a été la victime expiatoire. Pourquoi d'abord? Pour ses péchés. C'est ça l'amour de Dieu. Que vous ne soyez plus en train de vivre où? Dans le péché. Et si on perd cette vue, si on perd Jésus-Christ crucifié, on ne comprend plus quel est l'amour de Dieu. On va chercher autre chose et on va vouloir amener autre chose auprès des autres. Et c'est ce qu'enseigne Paul dans cette lettre aux Corinthiens depuis le début. Il est en train de leur enseigner, mes bien-aimés, Dieu nous a donné Jésus-Christ crucifié pour expier nos péchés. Gardez vos pensées sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ comment ? Crucifié, mort pour vos péchés. Ne laissez pas les divisions, les rivalités, la débauche, l'idolâtrie, etc. grandir dans l'assemblée. Si Jésus-Christ est le fondement, ce n'est pas ce que l'on devrait voir. Ce que l'on devrait voir, c'est le résultat d'une vie de sainteté, des hommes et des femmes qui, au lieu de se dépouiller, de parler mal les uns des autres, de calomnier, de chercher à détruire, eh bien, se retrouvent pour partager un seul langage, un seul sentiment, venant d'un seul esprit. Une assemblée dont le témoignage visible et non pas, ne sont pas ni la rivalité, la division, mais quoi donc ? L'amour. L'amour qui édifie. Et Paul enseigne quel est l'amour de Dieu. Mais il montre aussi l'exemple. Il montre que dans sa vie, c'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas un menteur. Il ne dit pas « Dieu nous aime et nous nous aimons les uns les autres », mais il ne le met pas en pratique dans sa vie. Et il le met en pratique au milieu des Corinthiens. « Vous ne m'aimez pas ? Moi, je vous aime. Vous parlez mal sur moi ? Moi, je vous bénis. Vous me persécutez ? Je viendrai au milieu de vous. » Parce que c'est son rôle. C'est la part que Dieu lui a donnée. Il est quoi ? Apôtre. Et aimer la parole de Dieu, aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Donc il va leur annoncer quoi ? Cet amour. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ce passage. Son don, c'est quoi ? Il l'a dit, c'est d'être prédicateur de l'évangile. Mais il a dit, je n'ai pas usé de ce droit. L'important, ce n'est pas le droit. L'important, c'est que l'évangile soit quoi ? Prêché. L'important, c'est pas que je mange ou que je boive, c'est pas que j'ai un salaire. L'important, c'est que quoi ? L'évangile soit prêché. Et il le dit même, je le fais gratuitement. Que vous me souteniez ou que vous ne me souteniez pas. Et que si cela crée un obstacle pour vous, il est prêt à tout supporter. C'est ce qu'il nous a annoncé en 1 Corinthiens 9. L'amour, le vrai. Pas un qui dépend de ce que fait celui qui est en face, mais un qui dépend de ce que Dieu lui demande dans sa vie. C'est ça qui doit être l'amour visible dans le corps de Christ. Chacun a sa part. C'est ce que nous avons vu les deux semaines précédentes. Tous ne sont pas des prédicateurs de l'évangile, mais nous avons vu la dernière fois qu'il y a diversité de quoi ? De dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et on peut lire 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, pourquoi ? Pour l'utilité commune. Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Il n'a pas dit seulement à certaines personnes, à chacun. Mais chacun a sa part pour l'unité, pour l'utilité commune. Et quel que soit le ministère dans lequel le Seigneur vous a placé aujourd'hui, il vous donnera le don, la manifestation de l'Esprit qui convient pour l'utilité commune. C'est ce qu'il nous indique. Ces dons, ces ministères, ces opérations qui peuvent exister dans notre vie n'ont de raison que s'ils sont utiles à Dieu, que s'ils sont vraiment manifestement de l'Esprit. S'ils se pratiquent, s'ils sont de l'Esprit, ils se pratiquent aussi avec la force de l'Esprit. Et savez-vous, quelle est la force de l'Esprit ? Quel est le fruit manifeste qui nous montre que nous agissons par l'Esprit ? Est-ce que vous savez ? Quel est le fruit de l'Esprit ? L'amour. Donc si c'est bien l'Esprit qui agit, votre don il sera utilisé selon l'Esprit, c'est-à-dire comment ? Dans l'amour. Et on va le lire dans ce texte. On va lire dans ce texte, qu'est-ce que ça veut dire ? 1 Corinthiens, chapitre 12 déjà. Le dernier verset. Verset 31. Qui commence par, jusqu'au verset 8, on va lire. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Vous avez compris, hein, dans ce texte aussi, le sujet principal, c'est l'amour. Et dans le verset 31, il parle de l'amour, 12-31, et avant de dire que c'est l'amour, il dit que c'est la voie, comment ? Par excellence. Excellence, c'est quelque chose qui va toujours nous amener à quoi ? À aller plus loin, plus haut. Mais c'est aussi, dans le terme qui est là, c'est la voie qui est au-dessus de tout. Et la voie par excellence, c'est quelque chose qui va toujours nous amener à progresser. Mais le problème, c'est que s'il y a la voie par excellence, il y a la voie par décadence. On descend au fur et à mesure. Et quand on regarde les Corinthiens, est-ce qu'ils suivaient la voie par excellence ou la voie par décadence ? C'était la décadence. La décadence, ils sont passés de l'amour de Christ à Christ crucifié, qui était là pour les délivrer de leurs péchés, à une église dont ce que l'on voit le plus, c'est quoi ? Le péché, les rivalités. Au lieu de voir quoi, normalement ? L'amour de Dieu. Il le dit, hein, 1 Corinthiens 11, versets 16 à 17, voilà leur manière d'agir. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Et le verset 17, en faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. La décadence. C'était le problème des Corinthiens. Ils se rassemblaient, mais au lieu de bénir le Seigneur, au lieu que ce soit l'amour qui soit vu, on voyait quoi ? Division, rivalité, débauche, idolâtrie. Des querelles. Chacun voulait du mal les uns aux autres. Et quand quelqu'un parlait à quelqu'un, c'était pour dire quoi ? Du mal. On va le dépouiller. Il m'a fait ceci et cela. Et moi alors ? C'était toujours ça. Mais Paul, ce qu'il nous dit maintenant, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Les Corinthiens étaient perdus, déroutés. Ils n'avaient pas la bonne direction. Et Paul leur dit, je vais vous montrer la voie par excellence. C'est le chemin qu'il faut prendre. Si vous voulez résoudre le problème, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Abandonnez le chemin que vous avez pris précédent. Il y avait beaucoup de dons à l'église de Corinthe. Ce n'était pas ça le problème. Et ils cherchaient les dons les meilleurs. Mais ils ne prenaient pas la voie par excellence. Ils prenaient leur propre voie. Chacun pour soi. Alors ce que Paul va enseigner ici, c'est la voie qui amène à l'excellence tous les dons. Que tout soit vraiment opéré par l'Esprit de Dieu. Fait dans l'amour qui édifie. La voie qui surpasse toutes les voies et non juste un poème touchant. On parle ici de ce qui est-il dans tous les domaines de notre vie. Elle transforme nos relations avec Dieu, avec les frères et sœurs, dans notre travail, dans notre famille, nos amis, le couple, les enfants, dans nos dons, dans nos ministères, ça change tout. Sans ça, ce n'est rien que nous allons produire. On peut chercher à avoir le meilleur de notre vie, mais si on se trompe de voie, ça sera la décadence. On peut exercer un ministère, mais si l'on se trompe de voie, ça sera la décadence. Ici, nous avons une personne qui cherche les dons les meilleurs, mais il va lui être donné le choix. Le choix, de la voie par la décadence, ou la voie par l'excellence. Et il le commence au verset premier. Voici la voie de la décadence. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, Je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Je ne sais rien. Parler toutes les langues, même celles des anges. Avoir le don de prophétie, c'est-à-dire être capable de prédire tout le plan de Dieu. Connaître tous les mystères, toute la connaissance. Avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ah, que des dons merveilleux. Mais Paul ironise quand même ici. Vous connaissez quelqu'un qui sait faire tout ça? Vous connaissez quelqu'un qui sait faire tout ça? C'est les capacités de qui qu'on est en train de donner là? De Dieu. Et la voix par décadence, c'est vouloir avoir les capacités de qui? De Dieu. Et vous l'être à l'égal de qui? De Dieu. Et parfois, on cherche des dons, pourquoi? Pour être spectaculaire comme Dieu. Et parler toutes les langues et celles des anges, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est Dieu. Personne ne peut parler avec tout le monde entier. Quand vous priez Dieu, vous le priez dans la langue que vous voulez, qui est-ce qui est capable de comprendre toujours? C'est Dieu. Et vous ouvrez la parole de Dieu, quelle que soit la langue, tout ce qu'il dit est compréhensible par qui? Par tout le monde. Et quand il donne des ordres aux anges, les anges comprennent. Et quand les anges s'adressent à lui, il comprend. Mais ce n'est pas la capacité d'un homme. Et ça serait se dire qu'on est capable de faire ce que Dieu fait que de dire cela. Avoir le don de prophétie, et là c'est vraiment de connaître vraiment tout le plan de Dieu. Qui connaît tout le plan de Dieu de bout en bout? À part Dieu. Connaître tous les mystères et toute la connaissance, levez la main si vous connaissez quelqu'un. Moi, je ne connais pas tous les mystères de Dieu. D'ailleurs, les mystères sont à Dieu, c'est ce que dit la Bible. Et toute la connaissance. Et parfois, c'est ce qu'on cherche. La foi jusqu'à transporter les montagnes. Ah, il a une telle foi. Miracle! Que des miracles partout! C'est la foi incroyable! Ok, transportons des montagnes. Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire. C'est ce qu'on pourrait penser être les meilleurs dons pourtant. Mais c'est ironique. Mais c'est ironique, mais c'est ce que l'on voit parfois dans les assemblées d'aujourd'hui. C'est ce qui caractérise les différents groupes de chrétiens. Ils recherchent les dons les plus excellents pour montrer que Dieu est chez lui et pas chez les autres. Ah, c'est notre église, il y a l'Esprit de Dieu. On sait parler toutes les langues, même celles des anges. Ah non, c'est notre église. Nous, on est capable d'annoncer toutes les prophéties. On sait quand le Seigneur reviendra exactement, on a la date, etc. Oui. Quoi encore? On a toute la connaissance des mystères. Les connaissances et les mystères. Ah, moi, les mystères de Dieu, je les connais. Ce qu'il a voulu dire par là, tout ça, je connais exactement. Rien n'est quoi? Rien n'est caché devant moi. Je sais toutes choses. Et parfois, c'est ce que nous prenons dans les églises. Et dans d'autres églises, on dit, ah, ici, c'est les miracles. Ici, on a plein de miracles. On croit que ceci et ça va arriver. Ce n'est pas les églises d'aujourd'hui. Et c'est la concentration, on les connaît pour ça. On les connaît pour leur capacité à faire ces différentes choses. Mais il va dire, mais moi je vais vous montrer la voie par excellence. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que d'être semblable à Dieu. Ce n'est pas de chercher les pouvoirs de Dieu. C'est quoi d'être semblable à Dieu? C'est quoi d'être semblable à Christ? C'est la question. Est-ce que c'est ça? Bon, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous prenez les prophètes, même dans l'ancien temps, est-ce qu'ils étaient tous capables de ça? Vous avez connu quelqu'un qui est capable de tout ça? Il y en a qui ont fait des miracles, hein. Mais est-ce qu'il parlait toutes les langues? Il y en a, est-ce que David, on a lu le psaume 139 dans la prière, est-ce qu'il a dit, ah moi je connais tous les mystères et toutes les pensées de Dieu? Il a dit quoi? Que tes pensées sont quoi? Impénétrables. C'est propre à Dieu. Mais c'est notre manière aujourd'hui d'essayer de montrer que nous sommes des chrétiens, que nous sommes quoi capables de faire ces choses-là. Mais ce texte va nous rappeler la voie par excellence, ce qui devrait caractériser toutes les églises de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a manifesté en nous donnant son Fils unique? Son quoi? Est-ce qu'il l'a manifesté juste pour certaines personnes? Il l'a manifesté pour qui? Donc tous connaissent quoi? Et tous doivent connaître quoi? Son amour. Et tous doivent vivre quoi? Son amour. Si vous cherchez le don par excellence, c'est celui qu'il a montré à qui? À tous. La part de tous. Mais aujourd'hui, nous essayons de nous distinguer non plus parce que Dieu nous a montré, mais parce que l'on voudrait. Ce que l'on voudrait de Dieu. Les dons, c'est devenu des courses. Ah, moi, je voudrais avoir ce don-là. Et non plus les dons que Dieu donne. Et l'église de Corinthe est l'image des églises de nos jours. Une église où l'amour de Dieu a de moins en moins de place. Mais ce qui a de plus en plus de place, c'est ce qu'on voit ici. Et vous savez, Jésus l'avait dit. On peut lire Matthieu, chapitre 24, verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de quoi ? La progression du mal. Et quand vous regardez l'église de Corinthe, qu'est-ce qui progressait ? C'est la décadence. Il devenait de quoi ? De pire en pire. Donc, qu'est-ce qui progresse ? Le mal. Donc, qu'est-ce qui va disparaître ? C'est normal, hein ? Les deux ne cohabitent pas. On ne peut pas dire, je pratique le péché, le mal, je le laisse là, et j'aime le Seigneur, et j'aime mes frères et sœurs. Si vous pratiquez le péché, est-ce que Dieu aime le péché ? Non. Est-ce que le péché fait du bien aux frères et sœurs ? Non. Donc, ce n'est pas possible. L'amour, c'est quoi ? Se refroidira. La pratique du mal s'oppose à la présence de l'amour, et la pratique de l'amour s'oppose à la présence du mal. Les Corinthiens insistaient sur les langues, la prophétie, la connaissance, les miracles, mais ils ont oublié l'essentiel. Comment Dieu les a aimés ? Pourquoi il a donné son Fils unique ? Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix ? C'est la question. Est-ce que vous le savez ? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été offert en sacrifice ? Pour nous donner la capacité de parler toutes les langues, pour que nous ayons le don des prophéties, pour connaître tous les mystères et toute la connaissance, pour déplacer des montagnes. Est-ce que c'est pour ça que Jésus-Christ est mort ? Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Pour nous délivrer de quoi ? Du mal. Et donc, qu'est-ce qui va progresser ? L'amour. Que nous puissions partager la vie de Dieu dans l'éternité. On peut déjà prendre le dernier verset qu'on a lu au verset 8 du chapitre 13, qui nous dit, hein, qu'est-ce qui ne va jamais mourir ? Qu'est-ce qui ne va jamais mourir ? L'amour. Donc si vous voulez investir pour des choses qui soient éternelles, vous allez investir sur quoi ? Les prophéties, les langues ou la connaissance ? Sur quoi ? Sur l'amour. Et quand vous serez au ciel, est-ce que vous arrêterez de vivre l'amour ? Est-ce que vous arrêterez les prophéties ? Vous arrêterez les langues ? Vous arrêterez la connaissance ? Vous aurez déjà quoi ? Le plein amour de Dieu, la pleine, vraie connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que ce que le Seigneur a fait, c'est de nous délivrer pour que l'on puisse vivre dès aujourd'hui quoi ? Cette vie qui se trouve au ciel, l'amour. Et comment peut-on voir que l'on est dans cette vocation ? Que l'on partage cet amour. Est-ce que c'est par nos activités ? On peut lire 1 Corinthiens 13, 3. Il dit, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je me reposais la question, comment sont canonisés les gens pour devenir saints ? Nous, je ne parle pas chez nous, hein. Je parle en général, quand on parle d'un saint, dans toutes les religions, c'est quoi un saint pour les gens ? Il a fait quoi dans toute sa vie ? Il a distribué, c'est ça, non ? Des biens aux pauvres, il a fait du bien à plein de gens. Il a dit, ah ben ça c'est un saint. C'est quoi aussi ? C'est quelqu'un qui est capable de se livrer aux flammes, il s'est immolé par le feu. Ah c'était vraiment quelqu'un, il a sacrifié son corps, il a souffert, il a fait grève de la faim, il s'est brûlé. Pourquoi ? Eh bien, pour être bien pour la cause qu'il a voulu défendre. Et parfois, les gens essaient de prendre Jésus comme quelqu'un qui défendait une cause. Ah, il est mort à la croix pour défendre une cause. Est-ce que c'est pour défendre une cause ? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est venu ? Je suis venu défendre la cause, ma cause, la cause de Dieu, devant vous. On l'a vu, il a donné son Fils, pourquoi ? Pour nous délivrer du mal. Ce n'est pas une cause, C'est la solution à un problème qui est universel, le péché. Mais parfois, nous sommes là à faire des œuvres sociales, à vouloir être saints aux yeux des gens, à livrer notre corps à la souffrance pour paraître saints aux yeux des gens. Mais ici, il dit que l'absence de l'amour fait que tout cela sert à quoi ? À rien du tout. Ça n'a aucune valeur. Si ce n'est pas pour délivrer du mal, qu'est-ce que vous voulez faire ? Juste pour dire aux gens, quelqu'un me disait, c'est comme, c'est un exemple qu'on m'avait donné, c'est comme quand vous avez un puits. Et puis vous avez quelqu'un qui est coincé dans le puits, et au lieu de lui donner la corde pour sortir de là, vous lui jetez de la nourriture dedans. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de délivrer, mais me dit, tiens, c'est pour que tu tiennes plus longtemps dans le puits. Mais avec le Seigneur, c'est pour nous sortir de là. De nous sortir du vrai problème, le mal. Mais si je n'ai pas l'amour, l'amour ici, ce n'est pas l'amour de l'homme, c'est l'amour de Dieu. C'est quelque chose que l'on ne peut pas susciter de notre propre chef, mais qui a été donné par Dieu. La première chose qu'il est dit au verset premier, c'est que je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si c'est dans un orchestre, c'est très utile. Mais si c'est tout seul, pam, 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 qu'est-ce qu'ils vont faire les voisins ? Ça suffit ce boucan-là. Ça ressemble à quoi ? À rien. Ah, ça fait du bruit, hein ? Ah, tout le monde l'a entendu. Mais en entendant, ça fait mal ou quoi ? Ça fait mal aux oreilles. C'est pour ça qu'un don, il n'a d'utilité que s'il est où ? Au milieu des autres. On ne veut pas de super don. On veut un don qui s'harmonise avec tous les dons qui sont dans le corps. Et ici, le verset suivant, il dit quoi ? Verset 2. Si j'ai tout ça, la prophétie, la connaissance des mystères, que j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis ? Je ne suis rien. Et parfois, les gens disent, ah, moi, je sais tout, donc je suis quelqu'un de génial. Mais ils disent, s'il n'y a pas l'amour, tout ça, ça sert à quoi ? À dire que nous ne valons rien. On pense être des super-héros, un super-prophète, on connaît tous les mystères, on connaît toute la connaissance, mais on vaut quoi ? Zéro. Zéro parce que ça ne sert à rien. Je ne suis rien parce que je n'ai pas quoi ? L'amour. Et on l'a vu tout à l'heure, on peut faire des œuvres touchantes, marquantes aux yeux des hommes. Elle peut même avoir l'air spirituel d'un amour qui ressemble à l'amour comme l'on définirait chez les hommes. Mais il dit quoi ? Ça sert à quoi ? Verset 3. Cela ne me sert à rien. Et parfois, au milieu de l'Église, nous aspirons à être des héros de la prophétie, de la foi, de parler toutes les langues, de distribuer des biens aux pauvres. Mais il dit quoi ? Sans l'amour, mes dons, mon service valent quoi ? Zéro. Et mon engagement vaut quoi ? Zéro. Et mes causes valent quoi ? Zéro. On peut prendre ce passage dans Luc 11. Hein. Ce n'est pas nouveau ce que Paul enseigne. Quand Jésus a parlé aux pharisiens, il leur a dit quoi ? Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Mais qu'est-ce qui va leur arriver donc ? Malheur à vous. Essayez de retirer quoi ? L'amour dans toutes les œuvres que vous essayez de faire, ou vos dons, ou votre ministère, ça sera le malheur. Mais il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais négliger ? La justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qui est jamais retiré. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les activités. Et nous pensons que ce sont nos activités qui nous rendent saints, qui font de nous des personnes spirituelles. Mais ce qui font de nous des personnes spirituelles, c'est d'agir selon l'esprit. Et l'esprit agit dans l'amour. Et il se base sur la justice de Dieu. C'est ce que nous ouvrons, sa parole, qui rend justice. Que cherchons-nous à pratiquer dans notre vie nouvelle ? Des œuvres, toujours, ou à pratiquer tout simplement ce qu'il fallait pratiquer, la justice et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la voie par excellence. Mais si on ne sait pas pratiquer l'amour de Dieu, c'est difficile de savoir si on est sur la bonne voie. Mais vous savez, Dieu ne nous a pas laissés sans repère. Et il ne nous a pas dit, essayez de deviner comment aimer. Non, il nous l'a révélé. Il s'agit de l'amour de Dieu. Un amour qui est inexistant dans nos vies. Vous pouvez le chercher à l'intérieur de vous. Demandez à votre voisin tout ce que vous voulez, il vous donnera toujours une mauvaise réponse. Parce que ce n'est pas de l'homme, c'est de Dieu. Donc pour connaître l'amour de Dieu, vous êtes obligé de lire la parole de Dieu et de regarder, mais c'est quoi aimer ? Et il nous l'a montré, c'est quoi aimer ? D'abord, c'est être délivré du mal. Et délivré du mal, sans l'amour, c'est d'avoir donné Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi n'oublions jamais nos Bibles. Ouvrons-la chaque jour pour nous demander « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu ?» Et je peux vous dire, vous le lisez, comme on a lu Corinthiens, il ne reste pas silencieux en lui disant « Oh, je ne sais pas quoi te dire aujourd'hui. Oh, je ne sais pas comment te dire pour aimer. » Vous l'ouvrez, c'est écrit, on le lit là, c'est déjà écrit. Choisissez la bonne voie, déjà. Mais il va continuer pour nous décrire vraiment qu'est-ce que c'est l'amour ? Mais la question, c'est est-ce que nous avons bien écouté les paroles ? Quel fruit de l'esprit est manifeste dans nos vies ? Et qu'est-ce qui disparaît de nos vies ? C'est les questions simplement que l'on doit se poser lorsque nous pratiquons ces paroles. Mais lisons la suite. Il va nous dire c'est quoi aimer ? Il ne va pas nous laisser en lui disant « Bon, écoute, essaie de faire comme tu veux, essaie de faire comme tu peux. Après tout, hein, chacun sa vérité, chacun son amour, et puis tout le monde se portera bien. » Il dit non, non. L'amour a une vraie manière de faire. L'amour est quoi ? Patient et plein de bonté. Voilà un cadre. Déjà un cadre bien simple, bien général. Si vous êtes impatient envers quelqu'un, vous manquez de quoi ? Si vous n'usez pas de bonté envers quelqu'un, vous manquez de quoi ? C'est facile à savoir. Hein ? Quand vous avez une personne, oh, cette personne-là, j'en peux plus, il m'énerve. Hein ? Vous manquez de quoi ? D'amour. Et quand vous dites... Oh, oh, lui, franchement, non, j'ai pas envie de l'aider. Hein. J'ai pas envie de lui faire du bien. Ça me donne pas envie. Ah, c'est quelqu'un, il m'attire pas trop. Il plaît pas trop, hein. On manque de quoi ? De bonté. C'est facile à savoir. Ce n'est pas difficile. Et il nous donne ses repères. Deux repères simples. Si vous êtes impatient et que vous manquiez de bonté. Est-ce que c'est des attitudes manquées de patience et de bonté qui sont des attitudes qui viennent de Dieu ? Ah, Dieu est un Dieu impatient ? Ouais, je pense qu'il est très patient quand même. Et quand on se connaît, moi je me dis, il est vraiment très 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 patient. Parce que je suis détestable. Et parfois quand j'y pense, je me dis, si je me mets à côté de moi, je ne me supporterai pas. Mais combien de temps est-ce qu'il est là à nous rappeler toujours sa bonté ? À nous dire quoi ? Qu'il nous aime et qu'il a donné son fils pour nous et qu'il est patient ? Oui, nous sommes pécheurs. Mais son amour couvre nos fautes. Il dit, j'attends qu'il vienne à la croix. J'attends, c'est ma patience. Et je vais toujours lui rappeler quelle est ma parole. Toujours, jusqu'à ce qu'il quoi ? Ce qu'il vienne à moi. Ça fait combien de temps ? Il a préparé ça même depuis combien de temps ? Tout en sachant ce qui allait se passer. Et sa bonté, elle dure à quoi, dit la parole ? À toujours. Ah, il n'est pas bon que... Ah, lui, je l'aime bien, je suis bon. Lui, je ne l'aime pas. Ah lui, ouais, hier, ouais, c'est vrai que je l'aimais bien, donc je vais user de bonté. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que... m'énerve, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Je veux plus rien avoir avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour qui nous est demandé d'avoir. Ce n'est pas notre amour, c'est l'amour qui vient de quoi ? De ce qu'il nous dit, de sa parole qui est puissante pour transformer nos vies. Nous devons être patients, couvrir les fautes des autres, prenant même les coups, attendant que les enfants en Christ deviennent plus matures, espérant que ceux qui s'égarent reviennent, laisser opérer Dieu en tout temps, par sa puissance, par sa parole. On ne va pas essayer, là, c'est dit, je vais essayer de le convaincre avec mes mots, avec mon amour. C'est l'amour de Dieu. Donc je vais attendre que l'amour de Dieu œuvre dans sa vie. Patience. Et dans une église, il faut être patient les uns envers les autres. Si l'on manque de patience, on va se jeter plein de choses à la figure. Et ça commence par la bouche. Vous savez, on va tous faire des fautes les uns envers les autres. Et si vous attendez que moi, je ne fasse pas de fautes envers vous, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, j'en ferai. Et c'est normal. Je ne suis pas Dieu. Mais chaque jour... Je veux consulter sa parole pour arrêter de faire du mal aux gens, pour arrêter ce que le mal se propage dans ma vie. Mais qu'est-ce qui doit faire place ? L'amour. C'est comme ça la vie. La vie ensemble. La vie unie dans quoi? Dans l'esprit de Christ. Que ça soit l'amour qui soit vu. Que ça soit la voie par excellence. Et c'est ce que Paul veut nous démontrer dans cet épître. Ce qu'il applique au milieu des Corinthiens, ce n'est pas son amour. Vous connaissiez Paul, hein, avant qu'il connaisse le Seigneur. Qu'est-ce qu'il aimait les gens, hein? Mais il aimait bien sa religion. Il aimait bien son ministère. C'est vrai, non? Il aimait son ministère. Il était passionné dans son ministère. Et il allait gauche, droite, on l'envoyait. C'était un super apôtre des hommes. Mais quand il est devenu l'apôtre de Jésus-Christ, est-ce que sa vie a changé? Est-ce qu'il parlait de la même manière? Est-ce qu'il était impatient? Ou il a appris à devenir patient? Ah, je vous dis, si pour aller au milieu des Corinthiens, il faut vraiment être patient. Hein. Parce qu'il les écrit une, deux, trois fois. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il les aimait. Et il les aimait vraiment. Et nous, quand on n'aime pas, oh, laisse tomber, je ne m'occupe plus d'eux. Hein. Je ne viens plus avec eux, je ne viens plus au milieu là. Je suis bien là chez Thessalonique, au moins ils sont sympas. Les Philippiens là, ils sont sympas. Mais alors les Corinthiens, plus jamais je viens chez eux. Non, il a appris à aimer. Si un homme comme Paul peut le faire, est-ce qu'il est supérieur à nous? Est-ce que c'est Dieu? Mais il a l'esprit de Dieu. Et il porte les fruits de l'esprit de Dieu. Le fruit. Pour éviter de se tromper, Dieu a quand même dit, des fois que vous ne comprenez pas ce que c'est que la patience et la bonté, je vais vous montrer ce que ce n'est pas. L'amour n'est pas envieux ou jaloux, dans d'autres traductions. Nous, notre amour, c'est un peu ça, c'est l'amour des hommes. La possessivité, c'est mon truc. C'est moi, je veux ça, je veux ce ministère, je veux ce don, je veux ce qu'il a. Je suis jaloux de lui, jaloux de ce qu'il fait, jaloux de sa vie. Ça, c'est notre amour. Donc, on aime quelqu'un avec jalousie. Et puis on le veut. Et puis dès qu'on l'a, ça ne nous intéresse plus trop en fait. Ça, c'est notre amour. Mais il est comment aussi? Vantard. Vous connaissez les vantards? La vantardise, c'est quoi quelqu'un qui est vantard? Qu'est-ce qui est le top niveau autour de lui? C'est qui le meilleur des meilleurs? C'est lui. Et les autres, c'est des quoi? Rien. Bon, c'est lui qui va dire à tout le monde... C'est quoi ton ministère? Moi, mon ministère, c'est de tout savoir. Hein. Toute la connaissance, tous les mystères. Donc toi, je vais te dire comment tu dois faire. Parce que moi, je suis au top niveau. C'est ça, notre amour. C'est de montrer que nous sommes quoi? Les meilleurs. Est-ce que c'est ça dans une église? C'est de chercher à savoir qui est le meilleur? Qui a le meilleur don? Qui est le meilleur prédicateur? Qui est le meilleur, etc., etc., comme il l'a dit Paul. Qui c'est? Paul? Apollos, Pierre, c'est qui le meilleur? Aucun des trois ne faisait ça. Par contre, les autres, ils disaient, moi, je suis de lui ou de lui. C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est ce que nous pratiquons, c'est ce que nous croyons. Et au final, ils s'enflent de quoi? D'orgueil. Donc, ils sont au-dessus de tout. Vous savez, c'est ça, un orgueilleux. C'est le péché de Satan. C'est que, à force de regarder sa beauté et sa sagesse, il a dit quoi?
Écoute...
Je crois que je peux m'élever aussi haut que... Plus haut même, hein, que Dieu. Hein. Je suis si beau, je suis si bon, je suis si génial. Bon, devenir vantard, on finit par être orgueilleux. Donc on ne s'occupe plus même des autorités. Bon, l'autorité, c'est Dieu. Oh non, mais je peux être au-dessus même. Et c'est vrai dans tous les lieux. C'est vrai au travail, c'est vrai dans la maison, c'est vrai dans l'église. Chacun dit, non mais je sais mieux faire que lui. Donc maintenant, je vais me mettre où? Au-dessus de lui. C'est ça le corps? Est-ce qu'il y a un membre qui est là plus important que les autres? Qui est au-dessus de tous les autres membres? Non, chacun a sa part. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et il le dit encore, la suite. Qu'est-ce qui n'est pas patient? Qu'est-ce qui n'est pas plein de bonté? C'est être malhonnête. À montrer un visage qui n'est pas le sien. Quand on arrive dans l'église, au visage, je suis un saint, hein. Voilà, tout va bien, je ne pêche pas moi, tout va bien, tout est toujours correct, ma vie, il n'y a jamais de souci. Voilà, être un visage avec un masque, ne pas être honnête, ne pas dire aux gens, mais non, tout ne va pas toujours bien. Et c'est pour ça que je dépose ma vie où? Là, en Christ. C'est lui qui va me délivrer du péché, mais il faut être honnête. Hein. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, « Oh non, mais moi, j'ai jamais de péché. J'ai pas péché une seule fois là, depuis je ne sais combien de temps. » Excusez-moi. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un quoi ? Menteur. Et ouvrez la Bible. Alors, chaque fois que vous lisez le matin, si vous me dites, « J'ai ouvert la Bible, mais j'ai vu que j'avais aucun péché. » Bon, ben, excusez-moi, je saurais pas quoi vous dire. Si Dieu est un menteur, il dit quoi ? C'est que l'homme est pécheur. Et on ne fait pas Dieu menteur. C'est ce que la parole nous enseigne. Et c'est comme ça qu'il nous aime. En ne nous laissant pas dans le péché, mais en nous délivrant du péché. C'est l'amour de Dieu. Et lorsque nous cherchons à être malhonnêtes, nous cherchons à montrer aux gens que l'on peut vivre une vie sans Dieu. Et on cherche non pas l'intérêt de Dieu, l'intérêt de tous, mais l'intérêt de qui ? Le sien. Je me rappelle toujours de ce qu'avait dit Alain dans un message. Il me dit, il y a deux types de personnes qui rentrent dans l'église. Alain Morino. Il a dit, il y a ceux qui disent en disant, « Coucou, je suis là. » Et il y a ceux qui rentrent en disant, « Ah, vous êtes là. » Vous savez la différence ? Il y en a un qui est heureux de quoi ? Que tout le monde voit qu'il est là. Tout le monde semble les trompettes. Et puis il y en a un, il est content de voir les gens. Il me dit, « Ah, mais... mes frères et sœurs sont là, on va pouvoir partager quelque chose ensemble. » On n'est pas le centre des choses. Et dans le corps, il n'y a pas de centre. Tout est un corps. Faire les choses, non pas pour notre avantage, que nos dons, nos ministères, nos activités, ne sont pas ce qui est le plus utile, ce n'est pas le centre. Mais on doit voir quoi ? Le corps qui agit. L'amour envers tous. Et lorsqu'on n'aime pas cela, lorsqu'on ne sait pas vivre dans un corps, on finit par s'irriter. Tout nous irrite. Les gens nous irritent. L'église nous irrite. Un peu comme un pull, là, vous savez, qui vous irrite. Et quand ça vous irrite, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous l'enlevez. Oh, j'en peux plus de ce pull. Allez, je le quitte. Je le pose à la poubelle. J'en veux plus. Et c'est comme ça. Ah, ça, c'est de l'amour. Et c'est comme ça que ça se passe sous l'amour, même dans les couples. Ah, il m'irrite, j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais ? Je le laisse. C'est comme ça que ça se passe au travail. Ah, sans ce travail, tout le monde m'irrite. Qu'est-ce qu'on fait ? Je quitte mon travail. Et quand la parole de Dieu nous irrite, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la parole. Et quand l'église nous irrite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va de l'église. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la patience et la bonté. Donc on sait que c'est l'esprit qui agit quand on ne fait pas ça. Et qu'on ne fait pas quoi ? Pourquoi les gens sont irrités ? Parce qu'ils soupçonnent le mal. Ça ne veut pas dire que personne ne fait le mal. Hein. Mais soupçonner le mal, c'est le terme qui est utilisé, c'est qu'il n'impute pas le mal. Soupçonner ou n'impute pas le mal. Ça veut dire quoi, imputer le mal ? Il m'a fait du mal. Ça, je ne vais pas. Je ne vais pas l'oublier. Hein. Je ne vais pas l'oublier, ça. Et à chaque fois que quelqu'un va faire un mauvais geste, cette personne que vous n'avez pas oublié, ah, s'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça, là ? Parce qu'il veut faire quoi ? Du mal. Donc, toute interprétation, ça sera quoi ? Il va faire du mal. Parce que je me suis toujours rappelé que cette personne, elle est en train de quoi ? Elle m'a fait du mal une fois. Donc, elle va toujours faire quoi ? Du mal. Et je soupçonne quoi tout le temps ? Le mal. C'est pour ça qu'on doit apprendre à oublier les fautes. Il va le dire hein, plus tard. Hein. Qu'est-ce que c'est que la manière pratique de supprimer tout ça ? Il ne se réjouit pas, la suite, de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça ne fait jamais du bien de voir quelqu'un marcher hors de la voie de la justice. Si vous vous réjouissez qu'une personne se perd, c'est que vous n'aimez pas. Même si elle vous a fait du mal. On doit se réjouir de quoi ? De la vérité. Que cette parole le ramène. Que cette parole lui montre l'amour de Dieu, qu'il le transforme. C'est ce que l'on doit vouloir. L'amour cherche le salut. Mais le salut passe par quoi ? La vérité. On ne va pas le mentir non plus. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et c'est ça. C'est ça le message. C'est le message pour nous. C'est ce que nous devons avoir. Et cet amour, il doit être chez nous. N'essayez pas de vous dire, « Ah, ça serait bien que mon voisin comprenne ça. Hein. » C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est le message que vous avez reçu. Mais souvent, nous, quand on reçoit un message, tout rebondit et ça passe chez les autres. Ah, il devrait vivre ça, lui. Non, l'amour, c'est de vivre ça. Et sans que l'autre ne le vive même. Mais vous, vous devez le vivre. Si vous avez vraiment connu l'amour de Dieu. Si Dieu avait attendu qu'on vive l'amour pour qu'il nous aime, il serait encore en train d'attendre. Mais il faut que celui qui a la capacité d'aimer, aime. Mais si personne n'est capable d'aimer, il n'y a pas de solution. Alors la solution, quand Dieu nous parle, il la donne à nous la solution, pas à notre voisin. Si vous avez connu l'amour de Dieu, votre vie la fera connaître aux autres. Il ne s'agit pas d'un avis, d'une pensée, d'une activité, mais pratiquer ce que nous avons tous connu de Dieu en Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous vivons, pratiquant envers les autres cette vérité et qui doit nous amener à nous réjouir. C'est ça l'amour. Marcher comme Christ a marché. Et comment il a marché? En obéissant en tout point. À qui? À Dieu. Il nous a montré comment aimer. Et nous, comment est-ce que nous cherchons à aimer? Avec nos connaissances. Mais il nous dit de marcher maintenant comme Christ nous dit de marcher. Pour conclure un peu, rappelons-nous du contexte, de la raison pour laquelle on parle de l'amour de Dieu dans ce passage. Le verset 27 du chapitre 12 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Le problème, c'est que certains pensent aussi avoir la part des autres. C'est ce qu'il dit. Il dira après. C'est pas comme ça que moi je ferai le ménage. C'est pas le chant que j'aurais choisi. C'est pas comme ça que je présiderais. Ce n'est pas l'enseignement que j'aurais voulu amener. Je n'aurais pas fait un don de cette manière, hein, pour cette raison-là. Ce n'est pas comme ça que je m'occuperais des enfants. Chacun est en train de prendre la part de l'autre et de critiquer ce que fait l'autre. Ça, c'est une église de désordre. Mais il a dit au verset 28, Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Et qu'est-ce qu'il dit? Tous sont-ils apôtres? Quelle est la réponse? Tous sont-ils prophètes? C'est quoi la réponse? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Et pourtant, tout le monde essaie d'être quoi ici? Des apôtres, des prophètes, des enseignants, pour faire des miracles. Chacun veut le don qui est le super don là et qui pense être le super don. Ne voulant pas accepter quoi? La part que Dieu lui donne. Et la part que Dieu vous donne, c'est la part que vous avez aujourd'hui, pas la part que vous prévoyez d'avoir demain. C'est le don de qui? De l'Esprit. Vous savez ce que l'Esprit va vous donner demain? Vous ne savez pas. Mais il vous donnera toujours ce qui est utile à son corps. Chacun sa part, et c'est comme ça que nous édifierons le corps. C'est comme ça que nous aimons, en prenant la part que Dieu nous donne. C'est la voie par excellence. Ce n'est pas posséder tous les dons, mais c'est d'agir avec celui qu'on a, en prenant la voie de l'excellence. Et cette voie, c'est l'amour. Faire passer l'intérêt des autres avant le sien, avant nos envies. L'amour, ce n'est pas de recevoir des dons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais nous, quand on aime, on veut recevoir. Quand Dieu aime, il nous donne ce qui est précieux. Et nous, quand on aime, on donne le reste. Mais ce qui est précieux pour Dieu, c'était quoi? Son fils. Alors, il va dire, oh non, mais quand même pas mon fils. Hein. Bon, il reste qui, là, comme dernier ange, là, qui est pas trop... Non, il a donné ce qu'il a de précieux. Ce qui était vraiment utile aux hommes. Que notre Église soit le témoignage de cet amour, qui est le fruit de l'Esprit de Christ, l'Esprit qui nous pousse à donner, l'Esprit de Christ qui habite en nous. Nos péchés, nos fautes n'ont pas empêché Dieu de nous aimer. Au contraire, son amour s'est manifesté envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Et nous devons aimer les autres, les frères et sœurs, de la même manière, même s'ils sont encore quoi? Pécheurs. Et qu'ils pratiquent quoi? Du péché. C'est l'amour de Dieu. Et c'est la preuve que son esprit est en nous. Le même esprit que nous avons tous et qui permet au corps de grandir. Si Christ crucifié est toujours dans nos pensées, nous aimerons comme il nous a aimés. Car c'est en cherchant non notre intérêt, mais ceux des autres, que nous devons aimer. C'est ce que Christ a fait sur la croix. Il n'a pas cherché son intérêt. Lorsque nous abandonnons les frères et sœurs à leurs péchés, lorsque nous délaissons le corps pour notre intérêt, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Le verset 7 de 1 Corinthiens 13 nous explique comment résoudre le problème. Vous avez des envies? Vous êtes irrité? Quelque chose ne va pas? Confiez-le à Dieu. Et commencez par quoi d'abord? Pardonnez-t-on. Et ensuite, ce frère-là, il va revenir, jamais il va suivre la parole, mais il dit quoi ici? Il croit tout. Et il espère tout. Et il supporte tout. Donc on a vraiment comment faire le mode d'emploi. Pardonnez déjà. Si vous êtes incapable de pardonner, c'est impossible d'aimer. Si vous ne croyez pas que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir dans la vie d'une personne, vous ne pouvez pas aimer. Si vous n'êtes pas en train d'espérer que la promesse se fera, vous ne pouvez pas aimer. Si vous ne supportez pas, vous ne pouvez pas aimer. Et ça, c'est la vie d'un chrétien mature, un modèle. Toujours, simplement, un chrétien qui grandit dans l'amour. Un chrétien qui imite la vie de Christ. L'amour est la voie par excellence. Et elle changera votre relation avec Dieu, avec les frères et sœurs, dans votre travail, dans votre vie de couple, dans l'éducation de vos enfants, au milieu des inconvertis. Dans votre ministère, dans la manière dont vous exercez vos dons. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui pour chacun d'entre nous? Est-ce que ces changements dans vos relations avec les autres sont vrais? Est-ce que c'est l'amour qui est visible? Le véritable, pas celui des hommes qui cherchent un intérêt, mais un amour qui donne, qui pardonne, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Si nous ne savons pas faire, la parole de Dieu nous a donné pour apprendre. Apprendre à faire chacune de ces choses. Et personnellement, quand je lis ce passage, il me montre toujours que je suis loin, loin de vraiment arriver à appliquer cela. Ce n'est pas toujours mon attitude. C'est une réalité. Je ne veux pas être malhonnête, je suis honnête. C'est une réalité. Mais nous devons apprendre. Apprendre par cette parole qui nous enseigne. Et apprendre tout en sachant que c'est Jésus-Christ qui me sanctifie. Et c'est lui qui fait l'œuvre. Je crois que par l'obéissance à sa parole, il me fera grandir dans son amour. Alors grandissons tous ensemble dans cet amour. Amen. Prions. Seigneur, cet amour que nous voyons ne se trouve pas en nous. Nous cherchons le moyen d'aimer. Nous cherchons à être heureux. Nous cherchons à vivre ta joie, Seigneur. Nous essayons de reproduire ce que nous voyons. Mais Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous enseigne, si ce n'est pas ton esprit qui nous pousse à agir, nous voyons que nous sommes perdus, incapables d'aimer. Seigneur, aujourd'hui, je te prie que les cœurs qui soient ici soient changés par ces paroles. Qu'ils comprennent pourquoi tu as donné ton fils. Peut-être aujourd'hui, certains semblent comme étant impossible d'aimer comme cela. Oui, c'est impossible. Mais tu rends les choses impossibles possibles. Parce que ça vient de toi. Tu as cette capacité de transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. Tu as cette capacité de remplir d'amour ce cœur vide. Et Seigneur, remplis nos cœurs de ta parole. Que l'on soit apte à aimer et nous éloigner du mal, que nos bouches servent à bénir et ne plus dire aucun mot qui soit un mal pour un autre frère. Mais que Seigneur, nous soyons patients, bons, comme toi tu l'es. Oh Seigneur, mets en nous cette sagesse. Que cette église soit un témoignage de ton amour, que lorsque les personnes rentrent dans ce lieu, lorsque nous sortons dehors, que l'on puisse dire, ils vivent vraiment ce qu'ils disent. Ils aiment comme Dieu a aimé. Que ce soit ce témoignage, que les gens te voient. Merci mon Dieu parce que tu nous as donné cette vie nouvelle. Et que c'est cette vie nouvelle qui nous attend au ciel, l'éternité dans ton amour. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans ce lieu. Et non pas celle de l'homme. Chasse le mal. Et mets cet amour, cette justice au milieu de nous. Que mon Dieu, toute la gloire te revienne. Et c'est en Christ que je fais cette prière. Amen.
Amen.